l'accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, nous sommes maintenant à 2 mois pile de la date fixée pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne et jamais la confusion n'a été aussi grande. À la Chambre des communes, les députés britanniques se prononcent sur une série d'amendements au projet négocié par Theresa May et rejeté massivement par les élus le 15 janvier dernier. Mais les parlementaires se présentent tous en front divisé avec de nombreuses propositions pas toujours compréhensibles, à tel point que les Britanniques sont totalement perdus. C'est le cas à Cardiff, au Pays de Galles, où s'est rendu Marie Billon. Si la capitale galloise avait voté pour rester dans l'Union Européenne, le reste de la région avait choisi le Brexit.
David est en train d'attacher son vélo dans le centre-ville de Cardiff. Sur chacune des barres de fer, il y a un autocollant « Bollocks to Brexit », qu'on traduira par « Zut au Brexit » pour rester poli. Il n'a pas choisi exprès de poser sa bicyclette ici, mais ce sticker jaune représente bien son état d'esprit.
C'est un vrai bordel, et personne ne sait comment s'en dépêtrer. C'est un désastre. Ça montre la qualité de nos politiques, qui sont prêts à nous induire en erreur et nous mentir chaque jour. Les deux camps nous mentent, mais surtout les pro-Brexit, qui n'arrêtent pas de nous répéter à quel point il est facile de sortir de l'Union européenne ou de négocier des accords commerciaux. Bref, c'est un désastre, et quand ils disent qu'un deuxième référendum casserait la confiance que nous avons en la classe politique, c'est n'importe quoi. On n'a déjà plus confiance.
La solution pour David, c'est un nouveau référendum. Laisser les Britanniques choisir une troisième fois. Ils ont voté pour rester dans la communauté économique européenne en 1975. Ils ont voté pour sortir de l'Union européenne en 2016. Le référendum de 2019 serait le troisième, le dernier, assure-t-il. David a les idées assez claires et assez carrées, mais d'autres, comme cette retraitée, semblent dire une chose et son contraire. Elle attend le bus qui doit l'emmener dans le quartier du Parlement gallois, tout un symbole.
J'ai voté pour rester, je ne pense pas que l'UE soit parfaite, mais on y est mieux placé quand même pour la réformer de l'intérieur. Et ce n'est pas le moment d'isoler le Royaume-Uni. Mais non, pas de second référendum, ça détruirait notre démocratie. La majorité a voté pour le Brexit, alors il faut quitter l'UE. Je suis très déçue que les politiques n'aient pas su se concerter pour trouver une solution commune plutôt que de se battre pour leurs intérêts. Mais la démocratie est plus importante.
Crystal, pro-Brexit depuis toujours, est du même avis. Et elle blâme aussi les politiques.
Sortir, oui, car on a voté pour le Brexit. La Première ministre doit se reprendre en main et nous faire sortir. Je me fiche de savoir comment, même sans deal. Sortez-nous de l'UE.
Mais d'autres, tout aussi mécontents des politiques, n'arrivent pas à la même conclusion. C'est le cas de Gavin.
On n'arrive pas à savoir où on en est. J'ai voté pour le Brexit, mais maintenant je ne suis plus si sûr. Ils nous ont dit des choses, mais tout a changé. Au début, on nous disait que l'argent qui n'irait pas à l'Union européenne pourrait être transféré aux services de santé, sauf que ce n'est pas vrai. Et puis, il y a cette histoire de frontières aussi. Tout a tellement changé, ils auraient vraiment dû expliquer mieux que ça.
Les débats au Parlement ou dans les émissions télé ou radio n'aident pas beaucoup puisque chacun reste crispé sur ses positions. Leur version du Brexit est possible, même si Bruxelles dit non, même si le gouvernement dit non et surtout même si le temps presse. Bref, Brexit signifie Brexit, a dit Theresa May en juillet 2016, un message plus crypté que jamais.
L'un des points de crispation, aussi bien du côté des Européens que des Britanniques, c'est le backstop, le fameux filet de sécurité censé éviter le retour à une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Les élus britanniques sont très divisés sur cette clause. Pas question en revanche à Bruxelles et à Dublin d'y renoncer. L'Irlande, qui continue d'espérer un accord de divorce, on rejoint Julien Lagache à Dublin. On semble quand même, Julien, se préparer au possible retour d'une frontière avec l'Irlande du Nord britannique.
Oui, l'hypothèse inenvisageable il y a encore quelques semaines est désormais dans toutes les têtes. L'absence de frontières était pourtant une priorité irlandaise dans les négociations du Brexit. Et Dublin continue d'ailleurs d'affirmer qu'il fera tout pour en éviter une avec sa voisine. Cependant, le Premier ministre nord-irlandais a jeté un pavé dans la mare vendredi en affirmant qu'un Brexit sans accord pourrait conduire à mettre en place des douanes, des infrastructures, des caméras et des policiers ou des soldats pour sécuriser cette frontière. Scénario jamais formulé officiellement et qui a suscité de nombreuses réactions. Plusieurs partis d'opposition se sont étonnés d'un discours pessimiste inhabituel pour le gouvernement irlandais. À Belfast, les unionistes nord-irlandais ont accusé Leo Varadkar de céder à une rhétorique de la peur, car ces images rappellent les troubles nord-irlandais, 30 ans de violences communautaires durant lesquelles l'armée britannique patrouillait la frontière et était la cible d'attentats nationalistes irlandais.
Et pourquoi cette allusion alors ? Pourquoi maintenant ?
Eh bien, le 29 mars et la sortie du Royaume-Uni approche et le traité que Londres a négocié pendant un an et demi avec les 27 est bloqué depuis deux mois au Parlement britannique. L'impasse politique rend l'idée d'un Brexit dur sans doute plus probable. Or, pour l'instant, la seule garantie qu'il n'y aura pas de frontière sur l'île irlandaise est contenue dans l'accord de retrait qui est coincé à Westminster. Il s'agit du fameux backstop, cette assurance souhaitée par l'Irlande, qui, faute d'une meilleure option, forcerait le Royaume-Uni à continuer de respecter les normes commerciales européenne pour permettre la libre circulation des biens sur l'île. C'est d'ailleurs cette disposition qui crée le plus de remous à Londres, où de nombreux élus voudraient l'avoir supprimée. Mais sans elle, l'accord n'a plus de valeur pour l'Irlande, et sans traité de divorce, le retour d'une frontière en Irlande paraît inévitable. Dublin veut donc peut-être rappeler le scénario du pire, tout en redisant y être hostile, ce qui crée au passage un peu de confusion.
Julien Lagache, notre correspondant en Irlande. Un divorce donc qui pourrait coûter cher, très cher même, car les accords du Vendredi Saint signés il y a 20 ans pour mettre fin à la guerre civile entre républicains et unionistes garantissaient la suppression de la frontière entre les deux Irlandes. Le spectre d'un nouveau conflit ressurgit en Irlande du Nord. Myriam Bell s'est donc rendue à Derry, Londonderry, ville longtemps associée aux troubles, comme on les appelait pudiquement. Reportage.
Avec une tasse de thé et un biscuit au bord, on peut tous dire. Et ces dames, 60-70 ans, s'en donnent à cœur joie dans la salle communautaire de Fountain. C'est un quartier protestant sur la rive catholique de Derry, Londonderry. Une petite enclave de loyalistes convaincus qui ont peint leurs bordures aux couleurs du drapeau britannique et élevé tout autour de hautes barrières de protection.
Nous vivions avec la frontière avant. Et cela ne nous a jamais, jamais, jamais affectés. La frontière, ce n'est pas un problème. C'est ce que pensent ces gens stupides qui siègent à Westminster et qui n'ont aucune idée où ils vont.
Mais rétablir une frontière dure, ce ne serait pas risqué pour la paix ?
Notre deuxième thé, nous le prenons chez ceux d'en face. Des catholiques du quartier très républicain de Boxside, où flotte le drapeau irlandais.
Je m'appelle Dan Brown et je suis allé en prison en 1985 pour avoir tué un soldat. Après 14 ans de prison, j'ai été relâché grâce aux accords de paix du Vendredi Saint.
Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un retour des violences ?
Il y a des gens là en ce moment, il y a deux groupes ici, je peux vous montrer où ils sont. Ils croient toujours qu'ils peuvent renverser la gouvernance britannique par la violence. Mais si nous avons essayé 500 ans sans y arriver, nous ne pouvons pas reprendre la même voie, ça ne marchera pas.
Don est devenu professeur de yoga, il ne veut plus entendre parler de politique. Et pourtant, il tient ce matin un petit musée souvenir de sa lutte armée dans l'IRA, un bric-à-brac d'armes et de photos de camarades. Dans le quartier aussi, le récit d'affrontements est partout. Des slogans, des fresques murales qui racontent le Bloody Sunday, cette marche réprimée dans le sang dans ses rues en 72. Boxside n'est pas passé à autre chose.
Good morning.
Donald McKeown, évêque de Derry, Londonderry.
There are those in the Republican movement.
Il y a ceux dans le mouvement républicain qui étaient mécontents de l'accord avec les Britanniques, parce que l'Irlande du Nord existe encore. Ils disent que le parti Sinn Féin a trahi tous ceux qui sont morts en siégeant dans un gouvernement d'Irlande du Nord qui est juste une partie du Royaume-Uni. Mais ce ne serait qu'un petit nombre de dissidents, et ils auraient peu accès à des armes. Ils auraient peu de soutien public. Derry se rend compte qu'il y a de l'argent à faire, comme ville paisible qui accueille des touristes. Derry profite trop de la paix pour avoir faim de conflit. Mais d'un autre côté, là où vous avez de jeunes hommes défavorisés, insatisfaits, qui se débattent avec des problèmes de santé mentale, d'addiction ou quoi que ce soit d'autre, vous trouverez toujours des gens pour les exploiter.
Et en voici des adolescents des quartiers plombés. Ils se réunissent 3 fois par semaine pour discuter, rendre des services ensemble, catholiques et protestants. C'est le programme BITE, financé par des fonds Peace européens.
Ça m'importe peu de quel côté tu viens, si tu es de famille catholique ou protestante. Mais il y a des gens qui ne te laissent pas te mêler à eux, ou joindre certains groupes ou venir dans leur zone. C'est juste que leur mère ou leur père a peut-être grandi dans les troubles, et il a peut-être participé. Et ça a été transmis. Ils ont dit à leurs enfants, tu n'aimes pas ces gens, tu ne te mêles pas à eux. Ce n'est pas une solution.
Un jour, j'aimerais partir ailleurs où tout cela n'est pas un problème, dit Harley. En attendant, il pourrait perdre cet espace de dialogue, comme des centaines d'autres menacés de fermeture en Irlande du Nord, faute de fonds européens bientôt.
Sur le continent, un no deal provoque aussi des sueurs froides. Et d'abord en Pologne, dans le secteur des transports, il faut savoir que 19% du total des cargaisons exportées et importées par les Britanniques sont transportées par des entreprises polonaises. Et le risque, ce serait désormais des files d'attente interminables à la frontière, des taxes douanières, des charges administratives. On imagine ce que cela pourrait donner, Thomas Giraudeau.
Des files interminables de camions attendant leur tour pour emprunter le tunnel sous la Manche. C'est le cauchemar des transporteurs polonais. Si Londres et les Européens se quittent sans signer un accord de libre-échange, alors dans 2 mois, le 30 mars à minuit, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers, avec comme perspective des embouteillages monstres à la frontière. Car pour les camions immatriculés en Pologne, comme pour tous les autres Européens, il faudra alors passer plusieurs étapes. Déclaration des marchandises, contrôle douanier, présentation des permis, paiement de la TVA sur le transport international. Tout cela augmente le temps de trajet et donc les coûts pour les entreprises. Ajoutez à cela le retour des droits de douane et de potentielles nouvelles exigences sanitaires, qualitatives sur les produits importés, l'alimentaire notamment. Les transporteurs européens verraient l'accès au marché britannique se compliquer considérablement et les Polonais en seraient une des principales victimes. Aujourd'hui, un camion sur 5 circulant chaque année entre le Royaume-Uni et le continent est immatriculé en Pologne. C'est 1200 véhicules tous les jours. En cas de Brexit dur, l'augmentation brutale des temps et des coûts de transport rendrait donc beaucoup moins compétitif et intéressant l'acheminement des marchandises par camion. Le président de l'Association des transporteurs routiers internationaux polonais s'attend ainsi à perdre de nombreux contrats. Certains importateurs britanniques préféreront le bateau à la route. Le syndicat patronal du secteur Transporti Logistyka Polska craint un transfert de 50 à 60% du fret routier vers le transport maritime par les ports belges et néerlandais. Won't you stay?
Won't you stay? Pour le Danemark, petit pays scandinave, entré dans l'Union européenne en même temps que le Royaume-Uni et qui a rejeté l'euro, le no deal, ce serait également une très mauvaise nouvelle. Le Royaume se prépare donc à gérer les conséquences économiques et politiques d'un Brexit dur. Anne-Françoise Hivert.
Début janvier, le Premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen a tenu à rassurer les 19 000 Britanniques vivant dans le pays. Le Danemark, leur a-t-il promis, travaille sur un texte de loi qui devrait leur permettre de rester en cas de no deal. En attendant, le ministère de l'Immigration leur conseille de demander rapidement un titre de séjour. À Copenhague, cependant, on espère encore un accord et pour cause, le no deal constitue la principale menace contre l'économie danoise à court terme, selon le ministère de l'économie. Le commerce avec la Grande-Bretagne, son troisième partenaire commercial, compte pour 2,8% du PIB danois. C'est d'ailleurs pour maintenir ces échanges que le Danemark a adhéré à l'Union européenne en même temps que le Royaume-Uni en 1973. Au total, un Brexit dur pourrait lui coûter jusqu'à 1% de croissance de son PIB, soit 17 milliards de couronnes, 2,3 milliards d'euros. 45 000 emplois sont en jeu. Principale victime, l'industrie agroalimentaire qui anticipe une baisse de 24% de ses exportations. Le patronat propose des conseils aux entreprises pour se préparer le mieux possible avec une stratégie, anticiper le pire en espérant le meilleur. Politiquement, le Danemark perd un de ses principaux alliés sur la scène européenne. Le Premier ministre ne s'en cache pas, son pays va devoir en trouver d'autres au plus vite. Avec une bonne nouvelle, cependant, visiblement refroidie par le précédent britannique, les partisans d'un Dexit, un Brexit à la danoise, n'ont jamais été aussi peu nombreux. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease.
C'est l'une des craintes récurrentes des étudiants européens dont Accent se fait l'écho régulièrement, le fait que leur droit d'inscription dans les grandes universités britanniques explose en cas de Brexit dur, une inquiétude partagée par les jeunes Grecs. Chaque année, environ 10 000 d'entre eux font le choix de poursuivre leurs études supérieures outre-Manche et se demandent maintenant s'ils vont pouvoir les poursuivre dans de bonnes conditions. Reportage Charlotte Stemnard.
Deux fois par semaine à Athènes, le Conseil britannique organise des sessions d'information sur les études au Royaume-Uni. Comme d'habitude, Maria Ladea, l'intervenante, aborde d'abord le sujet qui préoccupe tout le monde, le Brexit. Elle se souvient très bien du jour où les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne.
On est arrivé au travail et nous n'avons rien fait d'autre que de répondre au téléphone toute la journée. Les parents nous demandaient « Mon enfant part bientôt, est-ce qu'il va lui falloir un visa ?» Ou alors « Il va partir étudier pendant 10 ans, qu'est-ce qui va se passer ?» Nous avons essayé de répondre à toutes les questions et de lever des doutes, mais encore aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les réponses.
Dans la salle se trouvent de nombreux parents et quelques élèves, des lycéens pour la plupart comme Hierasimos Loukissas. Cette année, il va passer l'examen panhellénique, le test d'entrée dans les universités grecques. La concurrence est rude.
La difficulté, c'est que nous nous préparons pendant une période courte pour un grand nombre de matières. Cela peut être fatal pour nos plans futurs, car si nous n'obtenons pas les notes minimales requises, nous ne pouvons pas avoir la formation voulue. Au final, on risque tout notre avenir professionnel.
Hierasimos aimerait devenir ingénieur, une des formations les plus difficiles d'accès en Grèce. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres, les études en Grande-Bretagne sont un plan B, mais en cas de sortie définitive du Royaume-Uni de l'Union européenne, sa mère, Vasiliki Ziberdika, s'inquiète des complications.
Évidemment, s'il nous faut un visa juste pour rendre visite à notre fils, ce sera beaucoup plus difficile. Même chose pour lui, si les procédures se complexifient pour faire des allers-retours entre la Grèce et la Grande-Bretagne. Et puis, du point de vue économique, ce sera trop coûteux. Déjà que Londres, c'est très cher, s'ils ne font pas des incitations pour attirer les étudiants, ce sera très difficile.
En Grande-Bretagne, étudier pour une licence coûte entre 2000 et 10 000 euros par an. Une somme qui pourrait augmenter si les étudiants européens perdaient leurs avantages et étaient considérés comme tous les étudiants étrangers. Une difficulté supplémentaire pour les étudiants grecs qui viennent d'un pays en crise. Mais Katerina Fegaru, en charge du marketing au Conseil britannique, se veut rassurante.
Les universités britanniques nous ont confirmé que les étudiants qui partent en septembre prochain pour la Grande-Bretagne garderont tous les avantages qu'ils avaient jusqu'ici. C'est-à-dire que leurs frais de scolarité seront les mêmes que ceux des étudiants britanniques, avec même un premier cursus gratuit en Écosse. Et ils continueront d'avoir accès aux prêts étudiants. Et avec le gouvernement, elles assurent vouloir continuer d'avoir des étudiants de l'Union européenne. Les frais d'inscription ne seraient donc pas aussi élevés que pour les étudiants de pays tiers, comme l'Inde ou la Chine.
Katerina Fegaru rappelle que pendant ses propres études, dans les années 80, les étudiants grecs étaient encore plus nombreux en Grande-Bretagne, alors qu'ils avaient besoin d'un visa à l'époque. Pour elle, ce qui a réduit le nombre de départs, c'est la création de formations de qualité en Grèce.
Les établissements d'enseignement technologique ont commencé à proposer des diplômes post-licence et de nombreuses universités grecques se calquent sur des programmes britanniques. 12 000 étudiants suivent ces formations ici. On peut dire qu'en quelque sorte, 22 à 23 000 Grecs choisissent chaque année l'éducation britannique en Grèce ou en Grande-Bretagne.
Malgré le référendum sur le Brexit et l'inquiétude qu'il a créé, l'intérêt des étudiants en grec pour les études en Grande-Bretagne semble intact, expliquant au Conseil britannique. Il fête cette année ses 80 ans de présence en Grèce.
Françoise Grelot était à la réalisation et à l'origine des excellents choix musicaux du jour. Vous pouvez nous suivre sur RFI.fr et évidemment sur les réseaux sociaux. À demain.